Pour la méditation de ce matin, je vous invite à prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, versets 21-27. Nous lirons encore un peu plus loin un autre passage. Matthieu 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jusque-là, une première lecture et je vous invite à prier. Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire merci pour ces textes qui ont traversé les siècles. Merci parce que ta parole est arrivée jusqu'à nous. Et encore aujourd'hui, nous pouvons la lire et la méditer librement. Mais en tout, qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Il y a parfois dans la Bible et même dans l'Évangile des passages un peu difficiles à comprendre. Et le texte que nous avons lu, pour moi, était un peu difficile à comprendre. On a plein de questions. Qu'est-ce que Jésus va faire en territoire étranger pour rester chez lui? Quelle est cette attitude de rejet des disciples? Quelle est cette affirmation de Jésus? Et la réplique de la femme. Que viennent faire les enfants et les petits chiens? Comment comprendre la foi de cet étranger? Etc., etc. Parfois, il y a des choses qu'on lit comme ça, et puis bon, on ne va pas s'y arrêter. J'ai pris le risque de nous y arrêter. Et si ce récit n'était que raconté qu'une seule fois dans l'Évangile, nous pourrions nous y intéresser avec un peu moins d'enthousiasme. Mais il est aussi dans l'Évangile de Marc. Je vous ai déjà dit, quand c'est répété deux fois, quand même très intéressant. Trois fois là, il ne faut pas passer à côté. Et je vous propose de lire cette version dans Marc, le même récit dans l'évangile de Marc, chapitre 7, Marc 7, versets 24 à 30. On a l'impression de pouvoir lire la même chose. Hein. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, et le démon étant sorti. En mettant les deux textes en parallèle, on a quelques détails de plus. Et on pourrait dire que, bon, c'est la même source, parce que ça commence de la même manière, c'est la même histoire. Voilà, Jésus étant parti de là, c'est la même chose, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ben, on pourrait se poser la question, mais d'où vient Jésus, vu qu'il part de là, pour aller à Tyr et Sidon? Si on relit, évidemment, il faut voir tout le contexte, si on relit les chapitres complets, on voit que les pharisiens qui sont venus à Jérusalem pour un peu titiller Jésus et pour l'interroger sur les traditions, vous savez, le sabbat, que hein, les disciples ne respectent pas ces traditions, que bon, il faut absolument faire. Et que bah, un peu Jésus un petit peu hein, fait un peu pas le contraire mais un peu remet un peu les pendules à l'heure. Jésus a quitté donc Jérusalem et surmonte encore un chapitre avant. Il est parti parce qu'il fuit un peu Hérode. Hérode qui vient de tuer, décapiter son ami et cousin Jean-Baptiste. Entre-temps, ce n'est pas qu'il n'a rien fait. Il a quand même multiplié les pains, il a marché sur la mer, il a accosté de l'autre côté du lac. Il pense peut-être, en fouillant un peu, si on peut dire, avoir un peu de paix. Mais rien n'y fait, les pharisiens le suivent. Et les disciples le harcèlent, et cette foule aussi le harcèle de questions, et veut absolument être guéri de tout et de tout ce qui le tracasse. Avec tout ça, il décide de prendre quelques jours de vacances. C'est pas marqué dans la Bible, les vacances, mais on peut l'imaginer. Et d'aller dans un endroit où personne ne le connaît. On va loin, comme ça, pas de problème. Il va donc dans le pays de Tyr et de Sidon. Deux endroits très connus sur la mer Méditerranée, tous deux des ports très anciens. Pour info, Sidon aurait été créé par un arrière-petit-fils de Noé, et Tyr, selon l'archéologie, serait daté de 2700 avant Jésus-Christ. Donc, vieille ville, mais très prospère et très riche, vu qu'ils sont le long de la mer. Ils ont été utilisés aussi par les envahisseurs successifs, territoires. Philistins, Phéniciens, Assyriens, Égyptiens, Babyloniens, Grecs, et tout le monde a passé dans ces villes. Donc deux villes maritimes très fréquentées. Et d'ailleurs, Paul, de retour de voyage, il va séjourner 7 jours. Acte 21, pour ceux qui vérifient ce que je dis. Il faut. Ce sont donc des ports où transite pas mal de monde. Et là où il y a beaucoup de monde, et surtout beaucoup de voyageurs, la réputation des hommes qui se distinguent un peu, ça va très vite. Même sans Internet, blablabla, blablabla. Et celle de Jésus, évidemment, le précède. Mais un verset dans Marc 3 doit attirer un peu davantage notre attention, parce que sa réputation, on est venu aussi la chercher. Et dans Marc 3, verset 7, pardon, Marc 3, verset 7 à 12, « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples, une grande multitude venue de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, de l'Idumée, et de l'eau du Jourdain. » Il y a des gens qui viennent de partout pour l'écouter, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Pas de chance. Jésus est très connu. Alors qu'il n'est qu'au début de son ministère, il n'a pas encore désigné ses 12 disciples qui vont cheminer avec lui, il est déjà submergé de demandes de guérison, de libération, à tel point qu'un verset nous dit que il n'a même pas le temps de prendre ses repas. Marc 3, 20. On est bien loin de cela aujourd'hui. Hein. Quand on parle de Jésus, on a bien le temps de manger. Hein, parce que plus personne ne se presse au portillon. Mais il veut partir, veut enseigner ses disciples. Parce qu'il a parcouru beaucoup de temps. Alors il faut pour cela qu'il soit un peu au calme. Alors il se dit, bon, ben, un petit séjour en territoire étranger avec... En faisant une petite retraite, c'est peut-être bien nécessaire, on va se mettre un peu au vert pour discuter. Et il arrive donc dans la région de Tyr et Sidon, il y trouve un logement en espérant rester incognito. Mais Marc 7, 24, qui nous a voulu, il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Ça, c'est dans son optique. Personne ne doit savoir. Mais la suite, il ne put rester caché. Jésus se fait donc repérer là-bas. J'allais dire aux îles Baléares, un peu loin, il se fait repérer. Peut-être avait-il déjà à ce moment-là des paparazzis, et les gazettes se mettent en route, malgré sa discrétion. Jésus fait les gros titres. Et une dame écoute les infos, et le prend au mot, c'est une dame du pays, et les deux évangélistes sont d'accord pour dire qu'elle était cananéenne de ses contrées pour l'un, et grecque d'origine syrophénicienne pour l'autre. C'est la même chose, hein, c'est trois choses. Mais la Phénicie fut annexée à la Syrie et faisait partie de Canaan parce qu'elle avait été donnée en partage à la tribu de Aser, hein, pourrait revoir tout l'Ancien Testament qui décrit tout ça. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Et cette jeune femme est donc non-juive et, précisé, grecque. Elle ne parle pas l'araméen, elle ne parle que le grec. Elle est doublement étrangère à Jésus. Elle n'est pas juive et elle ne parle pas comme lui. Mais rien ne peut l'arrêter parce qu'elle entrevoit la solution à son problème. Sa fille est possédée. Ni une ni deux, elle interpelle Jésus en criant. Bon, même en grec, je pense que Jésus connaissait le grec quand même. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23, « Il ne lui répondit pas un mot. » Ça ne vous est jamais arrivé, vous, quelqu'un vous accoste, dit première pensée, « T'es qui, toi ?»« Moi, oui, désolé. »« Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là » Alors qu'on rentre dans le bus ou dans une salle d'attente, « Bonjour !» Personne qui répond. « Ouh, quelqu'un ?» Non, on ne répond pas. C'est un peu ce qui s'est passé avec Jésus, cette dame l'interpelle. Mais c'est précisément, on vous accoste et qu'on vous dit votre nom. Ah, des gens qui sont déjà venus près de moi et disent « Ah, ça va Jean-Luc ?» C'est qui ? Surtout avec le masque maintenant, c'est encore pire. Apparemment, pour Jésus, rien. Même en citant son nom, même en l'appelant, rien. Mais cette dame sait exactement qui il est. Sa phrase est précise, sa demande est précise. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Elle sait qui il est. Elle n'interpelle pas le premier venu. Souvenez-vous de Bartimée, il l'appelle de la même manière. L'aveugle de Jéricho appelle Jésus de la même manière. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » C'est précis. Excusez-moi, mais lui, il n'a jamais vu. Ces choses sont précises. Les infos qu'elles avaient étaient précises et crédibles pour la femme qui va se jeter à ses pieds malgré la réticence des disciples. « Dieu, c'est une étrangère, allez, elle n'est pas de notre peuple, allez, Jésus, renvoie-la, c'est bon. Hein. » Mais de quoi parlent-ils, ces disciples? Est-ce qu'ils pourraient le faire eux-mêmes? Allez, laisse-la, allez, Jésus, tranquille. Ou ils sont trop heureux? Dans le texte original, le terme traduit par « renvoie-la », c'est la parole des disciples, « renvoie-la », a deux sens. Et oui, le grec, parfois, il a deux sens. Ici, c'est « renvoyer », comme dans la plupart de nos versions. Donc, « renvoie-la ». Et l'autre, c'est « guérir », dans le sens de « faire grâce ». Et seule la traduction de la Bible de Jérusalem montre la délicatesse de dire « guéris-la ». Deux sens. Ça change toute la phrase. Mais, si on peut dire, ce serait peut-être un peu mieux approprié de dire ben, « libère-la ». Parce que Jésus vient d'envoyer ses disciples « aller ». Libérait-elle démons, allez par deux. Dans leur mission, c'est la mission de guérison, la mission de libération. Mais Jésus sait qu'il n'est pas en terrain conquis. Il est en terrain étranger. Il n'est ni à Jérusalem, ni en Galilée. Et même en Samarie, il est délicat. Souvenez-vous, près du puits, il parlera délicatement à la femme samaritaine. Il lui dira ses quatre vérités. Mais délicatement. « Tu as eu Sainte Marie, le dernier n'est pas ton mari. » Et dans notre récit, c'est la même chose. Il ne dit rien à la femme. Il répond simplement à ses disciples. Il ne parle pas à la femme dans un premier temps. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Autrement dit, chacun pour soi, chacun son chemin, chacun son histoire, moi, seul peuple que mon père a élu, je ne m'occupe que d'eux. Pas des autres, et surtout de ceux qui sont égarés. Ce n'est pas la première fois que Jésus parle comme ça. Hein. On n'a pas qu'une fois. Hein. Souvenez-vous, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il a 12 ans. Donc, je ne m'occupe pas. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et qu'y a-t-il entre toi et moi ? Dira-t-il à sa mère ? À son premier miracle, ou à Nicodème, qui est déjà âgé, et lui dit « faut que tu naisses de nouveau », etc. Jésus est parfois contraire, parfois cassant, parfois. Mais Jésus a ses priorités. Et déjà que sa tête est mise à prix à Jérusalem, mieux vaut quand même rester discret en dehors des frontières, de plus dialoguer avec une femme À cette époque, oui, 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 c'était très mal vu. Mais aujourd'hui, comment serait interprétée cette réplique? D'autant que Jésus remet quand même une couche quand la femme l'interpelle de nouveau à l'intérieur de la maison. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Et dans l'évangile de Marc, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. De nos jours, une telle réflexion, t'es au tribunal, hein? Ce serait une insulte, comme un signe de racisme, parce que l'étranger, un stéréotype de féminisme, t'as catalogué, ça y est. Mais si la comparaison des étrangers païens avec des chiens était vulgaire et insulte à l'époque, je veux quand même relever la délicatesse de Jésus. Il emploie le mot « petit chien ». Et pas, selon le contexte, des chiens errants. Errants comme s'ils allaient lécher les plaies du pauvre Lazare, comme dans la parabole du riche et de Lazare. Non, petit chien, un peu comme les chiens, petit chien maman, quoi. Petit chien de maison. Et d'autre part, le pain aussi est un aliment pur que l'on ne donne pas aux animaux. Les enfants sont prioritaires, entendez dire ici les petits-enfants. N'empêche, Seigneur, c'est quand même pas des propos à dire. T'es quand même le sauveur de tout le monde, de quiconque. C'est marqué. Tu viens sauver le monde. Je pense qu'une considération aussi négative va quand même à l'encontre de l'attitude générale de Jésus pour les êtres humains. Il accueille tout le monde quand même. Bon. On va essayer une explication. Hein. Parce que jusque-là, pas très clair. Hein. Dans une première partie du récit, ça se déroule dans la rue. La femme crie, les disciples s'approchent de Jésus et l'interpellent. Lui de répondre que sa mission est destinée aux brebis d'Israël. Par cette parole, il ne parle pas d'exclusion, il parle juste de priorité. D'abord aux enfants d'Israël. Le salut est pour tous, c'est bien clair. Mais la rédemption commence par les Juifs. Et Paul le dira lui-même, le salut vient des Juifs. Il explique à ses disciples pourquoi il ne guérit pas ou ne guérit pas en pays étranger, publiquement. Jésus n'est pas venu évangéliser. Il n'est pas venu toucher les nations. Cette mission sera confiée à ses disciples et à son Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et commencez à Jérusalem, chez les Juifs, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est venu pour les Juifs, pour divulguer après. Deuxièmement, la discussion avec la femme se fait à l'intérieur de la maison. Vous lirez les deux textes, les mettre en parallèle. Vous verrez qu'elle interpelle à l'intérieur de la maison, à l'abri des regards indiscrets. Elle vient se jeter à ses pieds et demande du secours. Et la parole de Jésus à propos des petits chiens n'est pas péjorative. C'est pas pour déprécier la femme. Mais elle indique seulement une autre priorité. Cette réponse sous-entend que la femme doit d'abord laisser les enfants manger avant de pouvoir être nourri. Jésus n'a pas dit qu'il allait pas la nourrir. D'abord les Juifs, d'abord le peuple d'Israël. Ce n'est pas que Jésus refuse catégoriquement. Et dans la culture hébraïque, les chiens étaient considérés comme des nécrophages. Donc ils étaient errants dans les rues et se nourrissaient de toute espèce d'immondice. Par contre, dans la culture grecque, très proche de la femme, les chiens étaient parfois des animaux domestiques. Et en mentionnant des chiots, des petits chiens, Jésus n'a certes pas voulu humilier la femme, mais lui montrer ses priorités, et sous une forme de parabole à la couleur de sa culture. Elle a compris. Elle a compris que Jésus avait des priorités. Et troisièmement, la femme n'a pas l'air choquée des paroles de Jésus, mais elle le prend véritablement au mot. En quelque sorte, elle approuve cette réponse. Ok, d'accord. Mais elle exprime qu'elle ne demande pas grand-chose. Elle ne demande pas du pain. Elle utilise le mot « miette » au lieu de « pain ». Et elle répond « petits-enfants », alors que Jésus utilise Enfin, au général, je m'explique. Encore en grec, parfois, un sens a deux mots, ou deux mots ont un sens. Pas facile à comprendre. Mais enfin, ici, dans ce cas-ci, le grec utilise deux mots différents pour désigner les enfants et les petits-enfants. Et c'est le cas dans notre texte de Marc, et dans nos traductions françaises, ça ne se discerne pas. Je relis le texte, comme ça vous comprendrez mieux. Dans Marc 7, 27, Jésus lui dit « Laisse donc les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » La femme qui répond « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des petits-enfants. » C'est pas pareil. Cette maman parle par expérience. Elle a certainement souvent vu sa fille manger et puis laisser tomber quelques miettes par terre. Et c'est là ce qu'elle réclame, le maigre repas que se disputent les chiots. Elle ne demande pas grand-chose, un tout petit peu de Jésus. La femme ne veut pas faire perdre le temps précieux à Jésus, mais se contenterait de quelques secondes, telles des miettes que la maladresse des bambins laisse tomber sur la table. Elle est convaincue qu'il ne faut pas grand-chose à Jésus pour libérer sa fille. Le résultat, vous l'avez lu, il est probant. Marc 7, 29. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et Matthieu dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. À cause de cette parole, il n'y a rien d'autre à faire. Et comme Henri nous l'a dit la semaine dernière, pas besoin d'incantation, pas besoin de pèlerinage, pas besoin d'indulgence. Le salut est par grâce et est gratuit. À cause de cette parole, cette femme a compris que le temps pour l'enseignement des disciples était très important et primordial et qu'il passe au-dessus du miracle. L'enseignement est beaucoup plus important que le miracle. Elle se contente d'une promesse de Jésus. Voir le démon est sorti. Il ne s'est même pas déplacé. C'est fait. En conclusion, femme, ta foi est grande. Et ce récit, en quelques versets, montre la foi en action. Cette femme doit passer au-delà, au-dessus de ses appréhensions, de tout ce qu'elle prend, de tout ce qu'elle ressent. Je suis seule. Ouh. Je suis étrangère. Oh là là. Je ne parle pas la même langue. Je suis une femme, je ne connais rien au rituel juif. Je suis pourtant désespérée. Il faut passer au-dessus de tout ça parfois pour arriver à Jésus. Non, je sais pas, il ne va pas s'occuper de moi, pas de temps. Une seule parole pourtant va montrer toute sa foi en Jésus. Non seulement elle a entendu parler. Femme, ta foi est grande. Ce n'est pas la seule fois que Jésus discerne ce genre de foi chez les non-juifs. Cela vous rappelle le centurion dans Matthieu 8, vous irez vérifier, et celle de l'officier royal dans Jean 4, tous non-juifs. Un des deux dira qu'il n'a jamais vu une foi aussi grande en Israël. Ta foi est grande. Et pour terminer, je vous laisse un extrait d'une autre libération, d'un autre récit de libération. Jean 4, verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici. » Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Quelle lourde parole. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le grain de sénévé ou de moutarde, la plus petite des semences, un peu comme une miette de pain qui tombe d'une table, peut-être insignifiante pour nous. Peut-être, mais dans la main du maître, peut faire des miracles. Qu'à lui revienne toute la gloire. Amen. Seigneur Jésus, ô combien nous voudrions avoir cette foi qui transporte les montagnes. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à avoir les yeux fixés uniquement que sur toi. Même si nous avons l'impression d'être tellement petits. Mais toi, tu es tellement grand. Oh Seigneur, on aura envie de poser la même question, de demander comme les disciples ont demandé, augmente-nous la foi. Mais pourtant, si même elle est petite, elle fonctionne. Parce que toi, tu es là. Et qu'avec rien, tu peux faire énormément. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur. Mais que toi, encore une fois, revienne toute la gloire. Amen.